On est la semaine avant Pâques, n'est-ce pas? Et même si pour moi Pâques vient bien plus tôt que d'habitude, ça me fait bizarre, même la semaine prochaine, d'avoir une prédication sur Pâques en n'étant pas encore en avril. Et je me dis, Pâques, c'est toujours avril. Mais bon, c'est comme ça avec le calendrier cette année. Mais on est à la semaine juste avant. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi pour voir nous aussi un peu, plus ou moins, ce qui s'est passé la semaine avant la crucifixion dans la vie de Christ, en Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, versets 17 à 19 sera notre passage principal. On va faire référence à d'autres passages dans un instant. Mais de penser, qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas voir la chronologie de toutes les choses qui sont passées la semaine juste avant la crucifixion, mais déjà au début de la semaine avant, de voir ce passage où Christ va en parler à ses disciples, entre autres. Et on va lire ce passage, et ensuite on va lire d'autres passages parallèles. Matthieu chapitre 20, tout le monde a trouvé sa place, versets 17 à 19, dit: Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin: Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Donc, vous savez, on aurait pu utiliser toute la matinée, si on voulait, pour lire verset après verset on voit, qui ont prophétisé la mort de Christ. Même dans l'Ancien Testament, etc. Et certaines personnes, je n'ai pas fait la recherche moi-même, donc je mets ça entre guillemets, certaines personnes disent qu'il y a minimum de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui ont été accomplies à travers la personne de Jésus-Christ, dans sa vie. Et que la très grande majorité de ces prophéties sont liées à sa mort et sa résurrection. Beaucoup, beaucoup plus qu'ils ne soient liées à sa naissance. Il y a beaucoup de prophéties, on y fait référence souvent en Ésaïe, Psaume, etc., par rapport à sa naissance. Mais il y a beaucoup plus de prophéties qui ont été réalisées, qui ont été données dans l'Ancien Testament, qui sont liées à sa mort et à sa résurrection. Ça nous aurait pris toute la matinée juste pour les lire les unes après les autres. Mais Jésus-Christ a lui-même prophétisé sa mort, qu'il allait mourir. Et de quelle façon? Comme il l'a fait ici. Et notre passage en Matthieu n'est qu'un de ces exemples. Cet exemple est repris par les autres évangiles de Marc et de Luc, apportant chacune une petite note de précision. Et on va prendre le temps de les lire en Marc chapitre 10, versets 32 à 34. Il nous dit: Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, mais Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Cette partie-là n'est pas marquée en Matthieu, n'est-ce pas? Donc c'est une petite précision que Marc nous donne, que les disciples étaient craintifs. Ils le suivaient avec crainte. On dit au moins il le suivait, malgré la peur. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui. Tiens, ça, là encore, Marc rajoute ce petit détail que Matthieu n'a pas. Ils vont se moquer de lui, ils vont cracher sur lui. Le battront de verge et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Et l'autre passage parallèle est en Luc, chapitre 18, versets 31 à 34. Et Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Et voilà, pour moi, le détail que Luc nous apporte, que les deux autres ne disent pas. Et on va y faire référence dans un instant. Il dit: Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisirent pas le sens. Ça aussi, c'est une précision que les deux autres évangiles ne mentionnent pas, auxquelles on va revenir tout à l'heure. Il est évident que Christ, lui, savait ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Il est Dieu, on le sait. Donc c'est normal. Il était déjà venu à Jérusalem à maintes fois auparavant, mais il savait que cette fois-ci, ça sera différent. Ce ne sera pas comme les autres fois. Et il n'a jamais voulu cacher ce qui allait arriver à ses disciples. Il voulait qu'ils le sachent, qu'ils le savent. Et on le voit à plusieurs reprises, comme ici, ce n'est pas la seule fois qu'il leur dit à ses disciples ce qui allait se passer. Mais on voit les prendre à part. Il y a plusieurs reprises, il dit, ils prirent les disciples à part pour les enseigner, pour les prévenir, pour qu'ils soient prêts eux aussi, ce qui allait arriver. Christ allait devoir faire certaines choses pour se préparer lui-même, hein, d'où le temps qu'il va passer dans le jardin de Gethsémané, etc. Plusieurs choses qu'il va faire pour que lui-même soit prêt. Mais il prend plus de cela le temps de préparer ses disciples à ce moment. Et dans le chapitre suivant, pardon, de notre passage en Matthieu, Matthieu 21, nous voyons ce qu'on appelle l'entrée triomphale de Christ. Et dès le début, Christ était mépris et haï, même lors de cette entrée triomphale, par les principaux sacrificateurs. Si on voit le passage en Matthieu 21, versets 14 et 15, il dit « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Donc on voit que dès le départ, même lors de son entrée triomphale, ses principaux sacrificateurs et ses scribes, ils avaient une dent contre lui. Ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient, malgré les miracles, même la manière qu'il le dit dans la parole de Dieu. Ces choses merveilleuses, des choses qui auraient dû émerveiller en les voyant. Au lieu de cela, ont induit de la haine. Voici cet homme qui enlève toute l'attention que nous on donne, qu'on a. Ils ne viennent plus vers nous, ils viennent vers lui. Mais c'est qui cet homme? Et ce qui rejoint ce que Christ avait prévenu à ses disciples qui allait arriver, quand il a dit dans notre passage de Matthieu 20, verset 18, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré à ces mêmes principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort. » J'aimerais qu'on prenne le temps de voir juste trois choses ce matin, la troisième étant bien plus courte, juste plutôt une conclusion. J'aimerais qu'on regarde déjà les enseignements privés de Christ, pour voir ensuite les pensées privées de Christ, pour terminer avec la trahison publique de Christ. Et d'abord, les enseignements privés. Hein, pendant toute sa vie terrestre, Christ, on le sait, il n'a jamais cessé d'enseigner partout où il allait. Sans faire de distinction entre qui était là, il enseignait tout le monde. Et même quand il n'était qu'un enfant, on se rappelle que il partageait son savoir au temple et c'était un sujet d'étonnement envers ceux qui l'entendaient. Et nous voyons souvent le Seigneur enseigner les foules ainsi que les personnes individuellement, comme Nicodème et la femme samaritaine, et etc., etc. Il a enseigné les pauvres, il a enseigné les riches, les personnes haut placées comme les personnes que les autres ne voulaient pas même avoir de aller dans leur maison comme... c'est quoi son nom maintenant? Zachée? Voilà, celui qui descend de cet arbre. J'ai eu un trou de mémoire. Mais même les chefs religieux ou les saints, ça lui était égal. Il enseignait partout où il allait. Et comme ici, parfois, on le voit, le Seigneur prendre ses disciples à part. Il dit, ceci ne concerne pas les autres. Ceci est un enseignement spécifique qui vous est réservé. Vous, les douze que j'ai choisis, que j'ai mis à part, qui vous me suivez, vous n'entendez pas juste de temps en temps quelques enseignements, vous entendez tous les enseignements que je donne partout où je vais, et en voici quelques-unes en particulier, en plus de cela, qui vous est réservé rien que pour vous. Et il est bon pour nous de nous rappeler que Dieu continue à nous enseigner de la même manière, vous savez, toujours aujourd'hui. Parfois, on reçoit son enseignement en foule, comme vous le faites déjà ce matin, en lisant sa parole, en entendant et en écoutant ce que sa parole a nous apporté en même temps que d'autres personnes. Et parfois, il nous apporte un enseignement bien privé. Parfois, c'est à travers sa parole, dans notre temps de lecture, de prière personnelle. Parfois, c'est à travers une épreuve personnelle. Et il y a différentes façons. Dieu a ça, il n'est pas limité à nous enseigner de la façon que nous, on pense qu'on devrait être enseigné. Mais on sait que Dieu nous enseigne toujours de la même manière aujourd'hui, parfois en foule et bien souvent en particulier en privé. Mais l'un comme l'autre, c'est notre responsabilité, pour ainsi dire, d'être présent, dans le sens, c'est notre responsabilité d'être à l'écoute, que quand Dieu nous parle, peu importe le moyen que lui a choisi de nous parler, on n'a pas intérêt de faire la sourde oreille. On n'a pas intérêt de dire, ah, oh, mais ça c'est bon pour les autres, ça me regarde pas. Ah, oh, mais ça c'est une vraie, ça c'est une vérité. J'espère que l'autre personne, elle écoute bien. Non, j'espère que moi j'écoute bien et que je fais bien attention. C'est ma responsabilité de recevoir les instructions que Dieu me donne, de faire abstraction des distractions et avoir non seulement l'intelligence de comprendre, mais d'avoir ce cœur enseignable, pas ce cœur de « Ah, oh, mais je sais déjà », mais un cœur enseignable, de ne pas être orgueilleux et prétentieux, mais d'écouter avec humilité et soumission. J'ai envie de dire, surtout, hein, quand le Seigneur nous prend à part pour nous apporter un enseignement privé, quand il dit « Carré, viens ici, j'ai quelque chose que je veux te dire à toi, là, en ce moment. J'ai vraiment intérêt d'être humble, soumis, à l'écoute, abstraction de tout le reste. » Pas dire, oh mais Seigneur, là, c'est pas un bon moment. C'est jamais un meilleur moment que quand Dieu nous dit, je veux te parler. Dire, les autres choses peuvent attendre. Lui veut nous apporter quelque chose. On n'a pas intérêt à nous le négliger. Dans notre texte, nous savons, nous voyons Christ prendre ses disciples à part. On pourrait voir le contexte de toutes les choses qu'il vient de faire. On verra les choses qu'il va faire, mais il dit, pour l'instant, j'ai quelque chose à vous dire. On va aller à Jérusalem. Et je vous dis d'avance, voici ce qui va arriver. Et on sait que Christ s'apprête à faire face à un moment extrêmement difficile dans sa vie. Il savait que ça allait être également très difficile pour ses disciples. Il ne pensait pas qu'à lui et à ses souffrances et à son besoin. Mais il dit, je vous prends à part parce que vous avez besoin d'entendre cela. Je vous prends à part parce que j'essaye de vous protéger, de vous préparer pour quelque chose qui va venir auquel vous n'êtes pas encore préparé. Alors écoutez-moi bien. Il les prend à part pour les enseigner. Combien de fois est-ce que Dieu a voulu nous donner un enseignement bien spécifique pour peut-être nous préparer à nous aussi à une difficulté qui va venir, auquel on ne savait même pas. Mais Dieu dit, je sais ce qui va arriver bientôt, écoute-moi, je te prépare. Écoute bien la prédication qui arrive. Écoute bien les paroles que tu es en train de lire dans ma parole. Écoute bien quand tu pries ce que je suis en train de dire à ton cœur. Prête attention à l'enseignement privé que je t'apporte parce que tu vas avoir besoin de ce que je te dis dans un futur proche. Mais on n'a pas voulu écouter. On a entendu, mais on n'a pas écouté. On n'a pas pris à cœur. On était comme les disciples dans Luc 18, 34. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Le truc, la chose, ce n'était pas supposé être caché. Dieu ne leur a pas parlé d'une façon mystérieuse dans le but qu'ils ne comprennent pas. Ils étaient supposés comprendre ce que Christ leur a apporté. Mais leur maturité spirituelle pour comprendre n'étaient pas encore là. Ils n'arrivaient pas à comprendre et à saisir le sens de ce que le Seigneur essayait de leur dire ce jour-là. Dans peu de temps, oui, Christ allait souffrir. Il allait être, comme il leur dit, on ne peut pas être plus clair. Il va être battu, il va être humilié. Il allait porter sur lui les marques de notre péché pour que nous puissions être sauvés. Les disciples vont voir de leurs yeux Christ comme ils ne l'ont jamais vu auparavant. Et ils l'ont vu. Ils ont été émerveillés combien de fois jusqu'à ce moment-ci. Mais là, pendant la semaine qui va venir, pendant le moment de la crucifixion, ils ne vont pas le voir faire un miracle. Il va se livrer. Ils ne vont pas, lui, Christ ne va pas parler comme il l'a fait tant de fois auparavant, où il a donné une réponse à ses accusateurs qui leur a littéralement cloué le bec. Il va se taire et aller, comme il nous est dit, un agneau qu'on mène à la boucherie. Ils vont voir Christ pendu à ce bois entre deux malfaiteurs. Ils vont voir Christ avoir cette apparence d'avoir été vaincu, en train de mourir. Ils vont voir Christ comme ils ne l'ont jamais vu auparavant. Oui, la foi des disciples va être mise à une extrême épreuve. Alors Christ les prend à part pour leur donner cet enseignement privé. Je vous préviens, voici ce qui va arriver. C'est prévu. Je suis né pour en arriver à ce point. Mais ce n'est pas la fin, et on verra ça plus tard. La façon que Christ les a enseignés à ce moment-ci, cruciale pour moi, est la même façon que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Regardez, si vous avez toujours votre place en Luc, ce passage en Luc chapitre 18, où il dit « Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Et ensuite, il continue et il explique, il donne les détails de quelle façon il va mourir. Mais il leur dit, tout cela, c'était annoncé d'avance. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans les Écritures, c'est dans ma parole. Il utilise, comme il l'a fait encore aujourd'hui, les Écritures pour préparer ses disciples. Tout ce qui a été écrit par les prophètes s'accomplira. C'est rien de nouveau. C'est écrit, et notre communion avec Christ ne sera jamais plus proche que quand nous nous approchons des Écritures. On ne peut pas en être autrement. On le dit, on le répète, nous lisons la Bible pour connaître la volonté de Dieu, certes, mais nous lisons la Bible surtout pour connaître Christ. Et en connaissant Christ, on s'approche de Dieu. Pas l'inverse. Ce n'est pas notre connaissance des vérités, des doctrines qui nous approchent le plus de Dieu. Et je dois lire la Bible pour connaître la volonté de Dieu. Mais ce qui m'approche le plus de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu et de comprendre et de connaître la personne de Christ. Parce que c'est lui qui est le lien qui nous unit à Christ. Il m'est impossible de lire la Bible de la même façon que je lis n'importe quel autre livre. Impossible. Il m'est impossible de lire n'importe quel autre livre, de la même façon que je lis la Bible. Je sais, quand je n'obéis pas à ce que je lis dans la Bible, que je suis en train de désobéir à Dieu. Je ne peux pas dire cela de quelque autre livre qui existe dans ce monde. C'est Dieu qui nous aide à comprendre sa parole. Et c'est Dieu qui utilise sa parole pour nous enseigner, nous corriger, nous fortifier, nous encourager. Et je prends plaisir à entendre sa parole, en public comme en privé. Parce que j'aime ce temps de communion personnelle, ce temps d'enseignement privé que Dieu a prévu pour moi. Combien de fois est-ce que j'aurais dû marquer dans un cahier quelque part, dans un calendrier, les moments où Dieu m'a apporté un verset le matin et ce verset est venu à point nommé pendant la journée, à cause de quelque chose qui est arrivé. Il m'avait préparé. Mais si j'avais voulu ignorer ce temps de communion personnelle, oh, j'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Oh, je vais lire autre chose vite fait, et puis c'est bon, ça suffira. J'aurais raté ce que Dieu avait prévu pour me préparer pour cette journée aussi. Qui sait de quelle épreuve Dieu veut me préparer pour aujourd'hui même, ou pour demain, ou pour cette semaine? Honte à moi si je choisis d'ignorer ces moments d'enseignement privé. Pas étonnant que les épreuves me surprennent dans ce cas-là et me terrassent, me mettent à terre. Remarquez que Christ a partagé avec ses disciples quelques détails des souffrances qu'il allait endurer. Même dans notre passage en Matthieu, Marc et Luc, les détails de ses souffrances sont assez similaires à un de détails de supplémentaires que l'un donne ou l'autre. Mais il dit très clairement, il va être battu, il va être moqué, il va être mépris, il va être rejeté, et oui, il va mourir. Et personnellement, c'est ma conviction qu'on s'approche le plus de Christ quand on prend le temps de comprendre et de se rappeler des souffrances qu'il a souffertes pour moi. Ne m'éprenez pas, j'aime voir Christ faire ses miracles. Je me réjouis J'ai un sourire quand je le vois agir et faire miracle après miracle avec une telle facilité. Marcher sur l'eau, qui même l'inconverti essaie toujours d'essayer de reproduire un peu ce miracle parce que oh, ça doit être fabuleux de pouvoir marcher sur l'eau. De calmer la tempête avec juste une parole. De guérir toutes sortes de maladies, que ce soit de naissance ou non, que ce soit lié à la lèpre, que ce soit quelque chose d'une déformation, aveugle, sourd, peu importe. Une parole suffit. Telle facilité. Et hop, la personne est guérie. J'aime voir Christ agir avec cette compassion, cet amour envers des personnes qui ont un grand besoin physique et pourvoir à cela. J'aime voir Christ enseigner, répondre aux questions avec là aussi une telle facilité où plusieurs fois, n'est-ce pas, on peut voir, dit, ah, ça y est, là, on lui a posé une question qui va le coincer. Et puis, il répond à une question et les gens sont, on ne sait plus quoi dire. J'aime voir sa patience aussi. J'aime voir sa bonté et son amour. Mais quand je prends le temps, et je viens d'y prendre le temps, pas juste de lire une fois les textes, mais de prendre le temps de regarder les détails de toutes les souffrances lors de la crucifixion. Alors oui, c'est à ce moment-là que je m'approche le plus de la personne de Christ. Parce qu'avec chaque détail qui se rajoute à l'autre, des souffrances qu'il a souffert, je ne peux pas les dissocier de moi. C'est pour moi. C'est également à cause de moi. Mais c'est pour moi qu'il a subi toutes ces souffrances, qu'il a mal, qu'il est. Et c'est. Je ne peux pas enlever les deux. Et donc le plus que je vois l'amour dans lequel il a bien volontairement choisi d'accepter ses souffrances, je m'approche de lui. Il dit, Seigneur, je ne mérite pas à ce que tu souffres autant. Je ne mérite pas toutes ces choses. Et je m'approche, bien plus que tous ces autres miracles qu'il a opérés. Dieu voulant, nous allons prendre à la fin du message la Sainte Cène. L'une des raisons pourquoi on fait cela, c'est parce que Christ a dit lui-même, n'est-ce pas, faites ceci en mémoire de moi. Il nous dit spécifiquement de ne pas oublier son sacrifice, ni ses souffrances qui y sont attachées. On doit se rappeler qu'il a été frappé encore et encore, qu'il a été battu injustement, la barbe déchirée, les épines sur sa tête enfoncées. On doit se rappeler des clous qui ont percé ses mains et ses pieds. Quand il dit faites ceci en mémoire de moi, il ne dit pas rappelez-vous seulement de ma résurrection. Mais c'est surtout de sa mort qu'on doit se rappeler, il dit. Tout le poids de son corps qui se repose sur ces clous qui sont à l'intérieur de sa chair, qui l'empêchent aussi de respirer, qui doit se pousser contre quand même pour pouvoir avoir une petite bouffée d'air pour durer un petit peu plus longtemps. On doit se rappeler. On peut imaginer l'agonie qu'il a subie sur la croix. La gorge sèche, demande à boire quelque chose d'aussi simple et on lui donne du vinaigre à la place. On doit se rappeler surtout que Christ a souffert toutes ses souffrances volontairement, sans se plaindre. On ne voit nulle part, avant, pendant ou après, le moindre regret de la part de Christ. J'ai fait cela pour vous, maintenant vous me désobéissez, alors j'aurais jamais dû. Humainement parlant, il aurait le droit de le faire. Il n'est pas comme ça. Jamais le moindre regret. Au lieu d'en vouloir aux personnes qui l'ont ridiculisé, au lieu d'en vouloir aux personnes qui l'ont injurié, qui l'ont fait tout ce mal, on le voit à chaque fois montrer de la grâce, de la miséricorde, de la compassion, de l'amour, au point où on l'entend dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous que je n'ai pas subi toute cette souffrance, que je n'ai pas subi toute cette humiliation en vain. Je ne l'ai pas fait pour être vaincu sur cette croix. Je l'ai fait pour que vous puissiez avoir la victoire sur le péché. Je l'ai fait pour vous. Par amour pour vous. Je suis mort en portant vos péchés pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle, si seulement vous vouliez bien croire en moi. On ne devrait jamais ignorer les enseignements de Dieu, mais quand, en plus, Dieu nous prend de côté pour nous donner un enseignement privé, on a intérêt de bien écouter. Vous aurez remarqué qu'à la fin du verset 33, Christ leur dit « Et le troisième jour, il ressuscitera. » À chaque fois, dans les trois évangiles, ils n'ont pas oublié cette partie de ce que Dieu leur a dit, de ce que Christ les avait prévenu. « Oui, je vais souffrir, etc. Mais le troisième jour, il ressuscitera. » Les disciples ne devaient pas être ignorants de cette vérité. Mais malheureusement, comme on l'a déjà lu, le verset 34 de Luc nous dit « Mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour un langage caché des paroles dont ils ne saisirent pas le sens. » Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas comprendre, je le répète, mais que malgré l'enseignement privé que Christ leur a donné, ils n'ont quand même pas compris. La faute ne venait pas du professeur. On pourrait facilement rester sur ce point, mais je crois qu'il nous serait bénéfique d'au moins voir le deuxième avant de conclure. Les pensées privées de Christ. Mais comment est-ce que tu peux savoir les pensées privées? Je peux imaginer que Christ était déjà en train de penser à ce qui allait venir parce qu'il en parle. Ce n'est qu'il leur apporte cet enseignement à ce moment-là, ce n'est pas venu de nulle part. Mais ça fait un moment que Christ pense déjà à ce qu'il va aller arriver. Il sait déjà dans son esprit, c'est déjà dans sa façon de penser. Il s'est dit, on va aller par là-bas parce que c'est pour cette raison. Et maintenant, je le partage avec vous. La raison même de sa naissance est étroitement liée à ce qui allait se passer dans une semaine, à sa mort sur la croix et bien sûr à sa résurrection. On ne doit pas oublier que Christ est également homme et que ça devait peser sur son cœur. Il devait appréhender jusqu'à un certain point les souffrances qui allaient venir. Jamais est-ce qu'il nous est dit que Christ a pris plaisir au sacrifice et à la souffrance de la croix. On nous dit qu'il l'a fait volontairement par amour pour nous, ça ne veut pas dire que c'était une joie, que c'était facile, que si ce n'est pour rien d'autre, on le voit dans le jardin de Gethsémané en train de prier en Matthieu chapitre 26 verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On imagine donc quand Christ prend ses disciples pour les aider à comprendre, à être préparés pour ce qui allait venir, Christ est également en train de partager avec eux ce qu'il avait sur le cœur. Christ partage avec ses disciples ses pensées privées. Il leur dit avec un certain détail des souffrances qu'il va endurer, de quelle façon il allait mourir. Et il sait que ses disciples ont besoin de savoir. Mais bien plus que ça, ce passage me montre également à quel point Christ était résolu d'obéir, de ne pas faire marche arrière, d'accepter de mourir sur la croix pour moi. Je partage avec vous ce qui vient, je n'attends pas ça avec plaisir, mais je le partage avec vous parce que il faut. J'ai décidé, j'irai jusqu'au bout. Soyez avec moi, comme il le dit là encore dans le jardin de Gethsémané, venez, veillez avec moi, priez avec moi à plusieurs reprises. Malheureusement, ils s'endorment. Mais il leur dit à chaque fois, avec chaque étape, je veux aller jusqu'au bout. Je veux vous préparer pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, vous aussi. Rien ni personne n'allait l'empêcher de prendre mes péchés sur lui, ni vos péchés sur lui. Ni même la souffrance, ni même le rejet, ni même les moqueries ou l'ignorance. Christ est résolu d'aller jusqu'au bout, comme la Bible nous le dit, même jusqu'à la mort de la croix. Par amour pour moi. La manière que j'aime y penser, c'est comme ceci. Oui, Christ savait. Il avait connaissance de toutes les souffrances qu'il allait endurer. Mais au lieu de se focaliser sur ses souffrances, il s'est focalisé sur moi. Sur le résultat. Le salut de l'homme par grâce au moyen de la foi. La grâce, elle vient dans le fait que Christ ne mérite pas de mourir. Et que je ne mérite pas que Christ meure pour moi. Et la foi vient de ce que je crois, sans l'ombre d'un doute, que Christ l'a fait par amour pour moi quand même. Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, où il a pu dire, c'est fini, tout est accompli. Oui, Christ m'a aimé à un point telle qu'il a volontairement accepté toutes les souffrances et les peines qui sont attachées à la crucifixion, pour que moi, pécheur, puisse être lavé, pardonné de tous mes péchés. Quelle tristesse pour lui aujourd'hui de voir le monde célébrer la Pâque, de célébrer ce moment de souffrance, sa mort, tout en refusant de le salut par grâce au moyen de la foi. Il nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous qui avez accepté mon sacrifice plus que n'importe qui d'autre, rappelez-vous que je ne l'ai pas fait pour rien. Alors regardons très rapidement le dernier point en guise de conclusion, cette trahison publique de Christ. Matthieu 20, 18 nous dit, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort. Le mot livré ici, c'est le même mot utilisé en Marc et en Luc, c'est le mot paradidomi qui veut littéralement dire trahi, livré par un ami. Et on sait que c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? De savoir qu'on va mourir, c'est déjà assez difficile, vous savez. Même les docteurs aujourd'hui, ils ont toujours du mal de savoir comment parler avec un patient pour leur dire qu'ils ont un cancer. Parce que peu importe la forme du cancer c'est automatiquement synonyme lié avec la mort, ils ne savent pas comment en parler. C'est toujours, la mort est toujours un sujet difficile. Et j'en suis moi toujours un peu choqué. Je me suis dit à plusieurs reprises, quand j'ai pu aller à des enterrements, des personnes inconverties, je dis, voilà une situation plus ou moins idéale pour parler de la mort et de ce qui arrive après la mort, parce qu'on est littéralement à un enterrement. Et je réalise que même lors des enterrements, les gens ne veulent pas parler de mort. Et je réalise aussi que le nombre d'enterrements que je suis allé d'inconvertis, les prêtres et autres, ils refusent d'utiliser le mot « mort ». Ils utilisent plein d'autres synonymes pour en parler vaguement, pour avoir un sous-entendu, mais ils ne veulent pas utiliser le mot « mort » parce que c'est tellement difficile pour les gens d'entendre et de parler de cela. Mais pour Christ, je crois que parler de la mort n'était pas le problème. Il savait que ce n'était pas la fin. Et même de parler des souffrances qui y sont attachées, ce n'est pas plaisant non plus, mais il est normal que Christ n'attende pas ce moment avec impatience, mais je crois que le moment qui a fait vraiment le plus mal au cœur à Christ, c'est de savoir qu'il allait être trahi par l'un des siens. Un de ses propres disciples allait le livrer pour mourir. Ce n'est pas un étranger qui va le livrer. Ce n'est pas un soldat ou un citoyen romain qui va le livrer. Ce n'est même pas un ennemi comme les pharisiens, les sadducéens, etc. qui va le livrer. Un de ses propres disciples, Judas Iscariot, pour 30 pièces d'argent. Judas qui, lui, a vu tant de miracles. Il a entendu tellement d'enseignements qui ont mis des milliers dans l'étonnement. Judas, avec qui il partagea les repas, les voyages. Judas, un des 12 disciples que Christ avait pris le temps d'enseigner, d'aimer de façon particulière et en privé. C'est lui qui va trahir notre Seigneur Jésus-Christ. Avec en plus une expression d'amour et d'affection, un bisou et des paroles qui sont supposées être des mots de respect. Matthieu 26, 49, aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Rabbi, un titre d'honneur qui veut également dire maître, trahi avec un mensonge et un amour trompeur, menteur, un bisou qui devrait être un signe d'affection, au lieu de cela, le marque comme un condamné à mort. Il va de soi que les souffrances physiques que Christ va endurer seront extrêmement difficiles et d'une douleur qu'on a du mal, nous, à imaginer aujourd'hui. Mais je crois que la douleur, elle a déjà commencé ici. La trahison de l'un de ses disciples. Et si nos églises en France ne sont plus fidèles à la parole de Dieu, ne sont plus fidèles à Dieu lui-même, on devrait avoir au moins l'honnêteté de pouvoir écrire sur le bâtiment de nos églises « trahi ». Nous avons choisi de trahir notre Seigneur. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la nôtre, c'est notre choix. Nous venons ensemble pour chanter, dire combien on l'aime. On dit l'adorer, on dit le prier, on dit vouloir écouter sa parole. Mais si nous laissons les difficultés, si nous laissons les souffrances nous arrêter d'être fidèles et persévérants jusqu'au bout, nous ne sommes pas mieux que Judas. Et nous disons d'un côté maître, et nous lui disons qu'on l'aime, une bise sur la joue, et de l'autre côté on le trahit. On ne fait pas sa volonté par crainte de ce que le monde va dire ou penser de nous. On n'est pas mieux que Judas. Remarquez qu'il est dit que Christ fut livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, n'est-ce pas? De toutes les personnes en Israël, ce sont eux qui auraient dû être les premiers à prendre la défense de Christ. De toutes les personnes, c'est eux qui devaient connaître la loi, l'Ancien Testament. Toutes ces prophéties qui ont été déjà accomplies à travers Christ, avant ce moment-là, c'est eux qui auraient dû en avoir connaissance. C'est eux qui auraient dû être les premiers à prendre sa défense. Ce sont les premiers à vouloir le condamner. Christ fut trahi par l'un des siens pour être livré entre les mains des principaux sacrificateurs, les scribes. Verset 19, d'un passage en Matthieu 20, « Pour qu'il se moque de lui, le bat de verge et le crucifie. » Luc ajoute le détail qu'ils lui crachèrent au visage, ça fait partie de se moquer de lui. Les Juifs l'ont couvert le visage pour le frapper en disant « Prophétise, dis-nous qui t'a frappé !» Comme si les coups ne suffisaient pas, ils avaient tant de haine qu'ils se sentaient obligés de se moquer de lui en même temps. Les païens, les soldats romains, ils en ont profité également, n'est-ce pas? En Matthieu 27, verset 28 et suivant, il nous dit « Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Et après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, rouvrant une fois de plus toutes les plaies qu'il avait, des coups de fouet qu'il avait reçus auparavant, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Les moqueries n'étaient pas nécessaires, mais certainement volontaires. Contrairement aux coups de fouet et aux autres abus physiques, les moqueries ont la capacité de faire mal à notre cœur. Les Juifs, comme les Romains, s'en sont donnés à cœur joie. Et Christ a tout accepté. Par amour pour moi, par amour pour chacun d'entre vous. Notre passage en Matthieu 20 nous dit qu'il se moque de lui, mais aussi qu'il le batte de verge, etc. Et il y avait plusieurs raisons pourquoi les coups, les fouets, les autres souffrances physiques faisaient partie de la crucifixion, avant même d'être cloué sur la croix, vous savez. On ne va pas voir toutes les raisons, mais juste l'une d'entre elles, était pour enlever autant de résistance possible, ou résistance physique possible, ainsi que de toute résistance émotionnelle que possible à la personne avant qu'elle ne soit clouée sur cette croix. De cette façon, quand les condamnés en arrivent au point d'être cloués et être érigés debout sur cette croix, leur résistance physique et également émotionnelle sont au plus bas, pour qu'ils n'aient même plus envie de résister et se laissent aller, faisant pour une crucifixion plus rapide. D'où la suite, maintenant logique, de ce que Christ a subi pour nous, moqué, battu et crucifié. J'aimerais pouvoir terminer en parlant de la résurrection de Christ, mais ça c'est pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est comme les disciples où il vient de nous dire, dans peu de temps, je vais souffrir, je vais être battu, je vais être moqué, je vais être rejeté, je vais mourir, je vais ressusciter aussi. Mais en attendant, j'ai besoin de vous. Soyez avec moi, soyez fidèles, persévérez, ne laissez pas ces moments difficiles vous éloigner de moi. On ne peut pas sauter toute cette étape pour aller tout de suite à la résurrection. On ne peut pas ne penser que aux choses qui nous font plaisir. Mais restons cette semaine sur cette trahison. Restons cette semaine sur les douleurs, les moqueries, les rejets, la haine, les coups, les fouets de cette couronne d'épines enfoncée sur la tête. Restons cette semaine sur la partie de la crucifixion qui devrait nous approcher le plus à l'amour de Christ pour nous. Prenons le temps de penser à sa mort, à ses souffrances, ainsi qu'à ce moment où Christ a pris les péchés du monde entier sur lui pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Oui, nous allons prendre la Sainte Cène et dire, faites ceci en mémoire de moi. Assurez-vous que je n'ai pas donné ma vie pour rien, mais que vous avez accepté le salut qui est attaché à toute cette souffrance et cette peine et à la résurrection, bien entendu. Arrêtez d'essayer de vous sauver par vos œuvres. Acceptez les souffrances que j'ai subies pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez pas les souffrances que j'ai endurées par amour pour vous et que cela vous encourage, vous, à m'obéir malgré les souffrances que vous devrez peut-être endurer. Ne me trahissez pas. Restez fidèles. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prier, nous allons nous préparer pour ce repas du Seigneur, pour que nous puissions le prendre d'une manière qui soit agréable aux yeux de notre Seigneur.